L'histoire des féministes par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04, c'est maintenant exceptionnellement.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, si nous présentons cet épisode exceptionnellement un vendredi et ce vendredi 27 septembre, c'est parce que c'est dans le cadre de la journée du 28 septembre, le lendemain. Donc, c'est une journée qui a été inventée par des groupes de féministes en Amérique du Sud et dans les Caraïbes dans les années 1990 pour décriminaliser l'avortement dans ces pays, pour mettre en lumière les difficultés rencontrées par les femmes de cette région du monde pour accéder à un avortement sûr et légal, car de nombreux États de ces pays imposaient des restrictions sévères ou interdisaient purement et simplement l'avortement. La journée a été adoptée à l'échelle mondiale par les organisations et les militantes des droits des femmes pour promouvoir ou sauvegarder le droit à l'avortement sûr et légal pour les femmes et les filles du monde entier. C'est pourquoi cette journée est internationale et c'est l'occasion pour nous en France aussi de faire le point sur ce sujet de l'avortement dans notre pays. Et d'abord, l'historique, bien sûr. Donc nous sommes maintenant en 1974, année déterminante qui voit la prise en considération des revendications des féministes par les hommes politiques au pouvoir. Il y eut d'abord, le 5 mai 1974, les élections présidentielles. La toute première femme candidate à la présidence de la République française, c'est Arlette Laguiller, L-A-G-U-I-2-L-E-R, 34 ans, d'origine modeste, contrairement à la plupart des féministes du MLF, elle est employée dans une banque, le Crédit Lyonnais, depuis l'âge de 16 ans et elle est militante syndicale et aussi elle fait partie du parti politique qui s'appelle Lutte ouvrière. « Eh bien oui, dit son clip de campagne, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. » Si elle ne s'identifie pas explicitement comme féministe, elle l'est. Elle proclame sa volonté d'articuler lutte socialiste et lutte féministe, bien en avance sur les autres partis de gauche. Elle veut relayer la parole des femmes de petite condition, les travailleuses comme elle les appelle, porter des revendications féministes dénonçant les lois comme le produit du pouvoir patriarcal. Je la cite. Les décisions concernant des millions de femmes, telles la révision de la loi sur l'avortement, le divorce, le travail féminin, sont prises par des hommes qui témoignent le plus souvent d'une ignorance imbécile concernant la vie des femmes. Nous retrouvons là le constat fait par les féministes de la première vague, puis par Simone de Beauvoir et par Gisèle Halimi, comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent. Et pourtant, Arlette Laguiller fut plus ou moins moquée, méprisée, peu soutenue par les féministes du MLF lui-même, en tant que mouvement autonome par rapport au parti politique. Donc isolée, lorsqu'elle commençait son allocution télévisée, invariablement par ces mots « travailleur, travailleuse ». Elle, en tant que candidate, elle n'oubliait pas de citer les femmes. Elle avait pris part à la création du MLAC en 1973, car le MLAC fédérait de nombreuses organisations, le Mouvement français pour le planning familial, le MLF, les médecins signataires du manifeste des 331, des représentants et des représentantes des syndicats, des partis politiques de gauche, dont Lutte ouvrière, LO, le parti d'Arlette Laguiller. Le MLAC aura eu 15 000 adhérents et adhérentes. Son objectif, c'est l'information sexuelle, la liberté de la contraception sans limite d'âge, la liberté de l'avortement par la lutte pour l'abrogation de la loi de 1920, et cela impliquait la prise en charge par les pouvoirs publics de l'avortement et de la contraception. Cela impliquait de dégager des moyens financiers pour créer les conditions sociales d'un libre choix aux femmes. Par exemple, la multiplication des crèches et des logements sociaux. Autre objectif, la diffusion de la technique chirurgicale d'avortement par aspiration appelée la méthode Karman. Arlette Laguiller détient le record du nombre de candidatures aux élections présidentielles, 6 fois consécutives. Son meilleur résultat est celui de 2002, 5,72%. Pendant la campagne présidentielle de 1974, elle défend des positions féministes dénonçant le statut de la femme dans la société, à savoir les conditions de travail inadaptées aux femmes, la double journée, c'est-à-dire le travail professionnel et le travail domestique cumulé, les inégalités salariales avec les hommes et l'avortement libre, ce qui est une position originale, donc courageuse au sein même de son propre parti politique, qui, lui, est axé sur la seule révolution prolétarienne. Aujourd'hui, elle a 84 ans, et voici ce qu'elle dit à propos de la campagne de 1974. Quand on m'a vu arriver, ils se sont dit « Oh, il faut qu'on s'intéresse aux femmes, car on n'en parle pas. » Tous les partis se sont mis à parler des femmes, de leurs problèmes. Cela obligeait tout le monde, c'est-à-dire tous les hommes politiques en course, à se positionner sur les doubles journées de travail des femmes, leur faible retraite, l'avortement. Donc, je n'ai pas été inutile, même si je n'ai fait que 2%. Et en effet, les autres candidats sont obligés de tenir compte de la vague féministe qui vient bousculer l'ordre politique masculin traditionnel. Les femmes deviennent un enjeu central pour les deux finalistes de l'élection, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Quand Valéry Giscard d'Estaing est élu président, donc en 1974, cette même année, il prend toute la mesure de l'ampleur du mouvement pour la libération des femmes. Il tient pour légitime l'aspiration des Françaises à jouer un rôle de citoyenne à part entière. Son gouvernement nomme 4 femmes, dont Simone Veil, V-E-I-L, ministre de la Santé, et Françoise Giroud, G-I-R-O-U-D, journaliste, au secrétariat d'État à la condition féminine, une toute nouvelle structure, symptomatique de la mentalité du président au pouvoir, décidé à moderniser la vie politique, disait-il. En fait, il n'était plus possible pour les pouvoirs publics de réprimer les avortements clandestins. C'est bien sous la pression des manifestantes de la rue, des pétitions précitées, du MLAC, du MLF, puis du planning familial, qu'il va confier la réforme de légalisation de l'avortement, non pas à Françoise Giroud, mais à Simone Veil. Pourquoi ce choix, me direz-vous ? La personne toute désignée aurait été Françoise Giroud, en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la condition féminine, de la lutte contre la discrimination sexiste. Confier à la ministre de la Santé, le projet est considéré comme devant résoudre un drame féminin, preuve de l'inefficacité de la législation répressive. La revendication des féministes est donc ramenée à un problème de santé publique. Ainsi, le projet paraît moins subversif aux yeux des élus appelés à le voter. On peut penser qu'il s'agit là d'une habile stratégie pour emporter l'adhésion et le vote de la libération de l'avortement par des élus nationaux, des hommes, tous plus ou moins conservateurs ou réactionnaires, soucieux de conserver le pouvoir masculin, réticents au partage avec l'autre sexe, bref, redoutant l'émancipation féminine. Dans ce contexte, la ministre, lors de sa présentation du projet de loi, évite soigneusement d'invoquer la liberté des femmes d'enfanter ou pas. Pour préparer la loi, une commission spéciale s'était réunie à l'automne 1973. Elle avait entendu ou reçu 200 000 témoignages de femmes sur ce tragique sujet, auditionné les tenants des deux camps, les pro-avortements et les anti-avortements. Voici un extrait du discours de Simone Veil devant une assemblée nationale composée de 481 hommes et 9 femmes, le 26 novembre 1974. Ce discours que l'on pourrait intituler « Il suffit d'écouter les femmes » montre toutes les précautions oratoires qu'elle a dû prendre face à cette assemblée pour le moins rétive. Donc, je la cite. « Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue, mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir conscient ou inconscient de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines que votre commission spéciale a entendues au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette, non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Parmi ceux qui aujourd'hui combattent une modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. Alors nous allons faire ici une pause musicale, la pause habituelle, et nous écoutons une chanson folklorique italienne, gaie et légère, qui s'appelle « La Tarentelle ».
Thank you.
Alors, je reprends donc après le discours de Simone Veil. 3 jours de débats houleux sont nécessaires pour que dans la nuit du 28 au 29 novembre 1974, la loi soit votée par 284 voix pour, contre 189 voix contre. Une courte majorité, mais plus large que celle espérée par Simone Veil. Expression de compassion et non de conviction, dira-t-elle. La loi est promulguée le 17 janvier 1975. Son titre exact est « Loi numéro 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse ». C'est de là que vient l'expression IVG, interruption volontaire de grossesse, qu'on emploie au lieu d'avortement souvent. Mais c'est une loi à laisser, concession aux réticents. Elle n'est adoptée que pour 5 ans et sera revue en 1979 après évaluation. Concession encore, elle comporte plusieurs conditions restrictives et cumulatives rendant compliqué l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, l'accès à l'IVG. Le texte propose d'autoriser l'IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse, soit 12 semaines d'absence de règles, tout en laissant le droit à tout médecin ou établissement hospitalier de refuser de pratiquer des avortements. Cela s'appelle la clause de conscience, toujours en vigueur pour les médecins. Les autres conditions sont les suivantes. Être en situation dite de détresse. L'intervention doit être réalisée par un médecin dans un établissement d'hospitalisation, un hôpital ou une clinique. Des démarches préalables sont obligatoires, destinées à l'information et à la réflexion de la femme, à savoir 2 consultations médicales et 1 consultation psychosociale, c'est-à-dire l'entretien préalable. Il s'agissait en fait de dissuader la femme d'avorter, au besoin en la culpabilisant. La femme doit confirmer son choix par écrit. Les filles mineures doivent obligatoirement obtenir l'autorisation parentale. En outre, il n'est pas prévu initialement le remboursement de cet acte par la Sécurité sociale. Toutes ces conditions, tous ces freins qui font du recours à l'IVG un parcours de la combattante vont être peu à peu supprimés sous la pression des féministes, sauf la clause de conscience des médecins. Au cours des décennies suivantes, années 1980, 90, 2000, 2020, jusqu'à cette année 2024 où la liberté d'avorter vient d'être inscrite dans la Constitution française. 1982, l'IVG est partiellement remboursée par la Sécurité sociale, puis prise en charge à 100% à partir de 2012. 1993, le délit d'entrave est inscrit dans le Code de la santé publique. Il donne la possibilité de porter plainte contre les commandos anti-IVG qui s'expriment violemment jusque dans les établissements hospitaliers. 2001, allongement du délai de 10 à 12 semaines, puis à 14 semaines de grossesse en 2022. 2014, suppression de l'exigence de la notion de détresse. Cela ne veut pas dire qu'on ne soit pas en détresse, mais on n'est pas obligé de le prouver. 2023, les sages-femmes peuvent pratiquer des IVG et elles peuvent le faire dans les mêmes conditions que les médecins depuis cette année, 2024. On le voit bien, la loi Veil était un texte de compromis qui ne faisait pas de l'IVG un véritable droit, mais qui ne l'interdisait plus, qui la rendait légale. Il s'agissait d'endiguer le fléau des avortements clandestins. Ce que constatent les féministes de l'époque, de cette deuxième vague, particulièrement le MLAC, c'est que cette loi fait du pouvoir médical le contrôleur de l'avortement, le contrôleur des femmes. Loin de la culture du MLAC, dont un des premiers gestes avait justement consisté à contourner ce pouvoir médical. Les adhérentes du MLAC pratiquaient elles-mêmes des avortements après s'être formées à la technique chirurgicale de l'aspiration en Angleterre, une technique moins douloureuse que le curetage à vif et moins dangereuse. C'est pourquoi, le 7 décembre 1974, le MLAC produit un manifeste dénonçant les limites de la loi. Les féministes restent vigilantes donc et se remobilisent en 1979 pour que la loi soit confirmée. 50 000 personnes sont dans la rue le 6 octobre 1979 avec le soutien des partis politiques et des syndicats. La loi dite « loi Pelletier » du nom de la ministre alors en charge des affaires concernant les femmes est votée le 30 novembre 1979, promulguée le 1er janvier 1980. Il était temps. On voit que l'IVG n'est autorisée que depuis 50 ans. Un demi-siècle après l'adoption de la loi Veil, l'IVG entre dans la Constitution française par une loi titrée « Loi numéro 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recours à l'interruption de grossesse ». Son article unique stipule, j'ouvre les guillemets, après le 17e alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption de grossesse. C'est un point culminant après des décennies de lutte citoyenne de tant de femmes et de quelques hommes pour accéder à cette liberté. Remarquons cependant que la formulation « pour garantir la liberté d'accès à l'avortement » n'est pas contraignante pour l'État. S'il avait inscrit explicitement le droit à l'avortement, l'État aurait été obligé de mettre en œuvre les mesures concrètes nécessaires pour le garantir. Il en est dispensé. Donc les mots soigneusement choisis par les rédacteurs de ce texte ont leur importance. Ils évitent le mot « droit ». Pour autant, cette constitutionnalisation est un symbole fort, ce n'est pas anecdotique. Attendons d'en voir les effets et ne baissons pas la garde, car aujourd'hui, un peu partout dans le monde, la possibilité de recours à l'IVG est attaquée sous la pression des puissants lobbies réactionnaires masculinistes et religieux, tant il est vrai qu'après chaque avancée sociale et politique pour les femmes, suit une période de forte réaction contraire. Ici même en France, la constitutionnalisation de la liberté d'avorter ne change rien aux difficultés d'accès à l'IVG, qui sont très inégales selon les régions et les départements, car les conditions d'exercice de cette liberté ne sont pas bonnes. Un rapport parlementaire de 2020 a démontré plusieurs difficultés concrètes sur le terrain. Premièrement, le délai de 14 semaines de grossesse n'est pas appliqué partout. Deuxièmement, de plus en plus de médecins font valoir leurs droits de retrait prévus à la fois par leur code de déontologie et par le code de la santé publique et refusent de pratiquer cet acte aussi pour la raison qu'il est mal valorisé financièrement et peu valorisant professionnellement. La charge du maintien effectif de ce recours à l'IVG repose essentiellement sur une minorité de praticiens militants dont beaucoup atteindront bientôt l'âge de la retraite. Troisièmement, le rapport précité souligne aussi que les lieux où l'on pratique les IVG ne sont pas à la hauteur des besoins dans certains départements, ce qui engendre des inégalités territoriales inacceptables. La conséquence, c'est l'allongement des délais de consultation et le rallongement des trajets pour des femmes et des filles qui doivent faire plusieurs centaines de kilomètres hors de chez elles pour avorter. Le délai entre la première demande pour une IVG et sa réalisation peut varier de 3 jours à 11 jours selon les régions, donc un risque de dépassement du délai légal de 14 semaines de grossesse, source d'angoisse et de stress. De plus, la politique de santé publique à l'œuvre depuis des décennies de regroupement des établissements hospitaliers pour faire des économies, en supprimant des lits d'hospitalisation, entraîne la fermeture des centres d'IVG et des maternités de proximité comportant des lits d'IVG. Le planning familial estime que depuis 15 ans, 130 centres d'IVG ont été fermés et que le nombre de maternités entre 1996 et 2019 est passé de 814 à 461, ce qui entraîne automatiquement une baisse des lits d'IVG. Cette situation générale, de même que le maintien de la double clause de conscience, est régulièrement critiquée par les féministes d'aujourd'hui et autres citoyennes et citoyens, notamment les syndicats de santé et des collectifs citoyens, sans résultat à ce jour. Donc, l'entrée de la liberté d'avorter dans la Constitution, tout en étant certes un symbole fort, est un leurre si les conditions de l'accès à l'avortement ne changent pas. Le combat féministe pour la liberté d'avorter, pour avoir le droit d'avorter sans se justifier, continue. C'est le combat des féministes d'aujourd'hui en tant qu'héritière des féministes de la deuxième vague. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Le prochain épisode, ce sera le mardi 5 novembre et il portera sur le procès du viol et la fin de la deuxième vague avec l'apparition du féminisme d'État ou féminisme institutionnel. Au revoir à toutes et à tous. Bonne journée.
C'était l'histoire des féministes numéro 12 par Jacqueline Engrave, que vous retrouverez donc en ligne sur notre site. Et rendez-vous donc le mardi 5 novembre pour le numéro 13, l'histoire des féministes.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre. Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non. Tu n'as pas de nom. Déjà tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise. Et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe. Depuis si longtemps je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non. Tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre. C'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche. C'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène. Larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.